his first hit of the year. He drives one deep left field. That goes Upton back near the wall. It's out of here. Bartolo has done it. The impossible has happened.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième podcast TSO de 2022. Après un peu plus d'un mois de compétition dans les Major Leagues, on voit une hiérarchie qui commence à se mettre en place un peu partout et les ténors, enfin presque tous, qui commencent à se détacher des feux de paille du printemps. Pour parler de ce début de saison ébouriffant et de ses premiers enseignements, j'accueille un duo de choc aux accents texans aujourd'hui, avec tout d'abord Martin, qui échange aujourd'hui le fauteuil de présentateur pour celui de chroniqueur. Bonjour Martin.
Bonjour Bastien et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver toute la communauté The Strikeout dans un podcast et puis hâte de pouvoir parler baseball tous ensemble.
Et nous recevons également Guillaume, administrateur des comptes Twitter Astro France et Tiger France, grand fan des J-Inch, vous l'avez deviné, et rédacteur TSO. Salut Guillaume.
Bonjour à tous les deux et ravi d'être avec vous ce soir.
Alors, sans plus attendre, on file, parce qu'on a un gros programme aujourd'hui, on file faire le point sur tout ce qui s'est passé dans le National Pastime, de la côte Est à la côte Ouest, et on va pas mal parler de la côte Est et de la côte Ouest justement. Play ball. Côte Est, côte Ouest en effet, puisque sont les deux franchises de New York et les deux franchises de Los Angeles qui ont véritablement animé les premières semaines de la saison, trustant un temps les deux meilleurs bilans d'American League et de National League respectivement. Alors on est habitué à voir les Yankees et les Dodgers dans ces eaux-là, on y attend les Mets et les Angels depuis longtemps, depuis des années sans plus vraiment y croire, mais est-ce qu'il est en train de se passer quelque chose? Alors Guillaume, on va commencer par toi, tu as hérité de la Californie, les Dodgers, tes amis les Dodgers, intouchables comme souvent. On se dit que ça, encore une fois, ça va être difficile de les battre en saison régulière. Mais les Angels en sur-régime, tu penses?
Allez, Angels, pour eux, c'est un très bon début de saison. Ils ont un effectif sans blessés. Je crois que l'an passé, ils ont débuté la saison sans Rendon, quasiment toute la saison d'ailleurs. Mike Trout était blessé également. Donc, ils n'avaient que Shohei Ohtani et puis d'autres jeunes qui commençaient à se montrer. Là, cette année, l'effectif est complet. Je crois d'ailleurs qu'en attaque, c'est la huitième attaque en moyenne au bâton, sixième au BP. C'est la deuxième équipe en nombre de home runs. Je crois que la première, c'est les Yankees. Donc ça pose un peu les décors. Et puis, c'est une équipe qui vole également beaucoup de bases. Donc voilà, c'est une équipe qui a envie de... Qui a envie et qui croit cette année que le titre de division, c'est pour eux. Donc voilà, c'est une très belle équipe, sachant que le gros point faible l'an passé c'était le monticule, et c'est un problème qui est en train de se régler du côté des Angels.
C'est vrai, parce que les lanceurs des Angels, ça fait des années qu'on en rigole, mais là, cette année, finalement, ça commence, il y a un bullpen qui tient un peu la route, t'as les starters, t'as Ohtani qui est pas mauvais, t'as Syndergaard qui se débrouille pas mal, t'as Detmers, le petit jeune qui sort un no-hitter, on se dit qu'il y a un truc qui est en train de se mettre en place.
Oui, il y a une belle équipe, donc effectivement, la rotation est menée par Ohtani, qui est parti sur les mêmes bases que l'an passé. Michael Lorenzen est pas mal également, avec une ERA de 3,57 sur 35 manches déjà lancées. Donc ça, c'est en date de jeudi soir. Donc effectivement, on a une belle rotation, et puis on a un très bon bullpen. Donc c'est une off-season quelque part réussie pour les Angels. Petit bémol toutefois, le début de saison, c'est les Orioles, les Cleveland, les White Sox lors de leur mauvaise passe, les Red Sox, les Athletics, les Nationals et à nouveau les Rangers. Donc voilà, c'était un début de saison plutôt clément pour eux, mais ils ont su capitaliser sur ces séries plutôt faciles à gagner. Donc voilà, c'est un bon début de saison pour les Angels.
Mais à confirmer, comme tu dis, quand ils vont s'attaquer à des meilleurs adversaires. Bon, les Dodgers, pas grand-chose à dire. Hein. Comme d'habitude, ils vont rouler sur la saison régulière et normalement, ils se plantent vers les Championship Series. Quoi.
Oui, même chose. Les Dodgers continuent d'aligner les très belles saisons. Même chose, là, c'est une des meilleures équipes offensives. C'est une équipe qui vole également énormément de bases. En 2022. La rotation, on n'a pas grand-chose à dire. Et puis, le bullpen, c'est pareil, hein, c'est quand même très, très costaud. On a un Justin Turner qui en est déjà, peut-être de jeudi soir, à 28 points produits, avec une petite moyenne au bâton, mais il est présent. Trea Turner également. 27 points produits. Mookie Betts répond présent, Freddie Freeman également, Will Smith, Chris Taylor. C'est un peu plus compliqué pour Cody Bellinger comme l'an passé, mais voilà, c'est ça roule. Et effectivement, le soleil brille deux fois en Californie cette saison.
Ouais, donc bon début pour les équipes californiennes, hein, parce que les Padres sont pas mal non plus, on en parlera plus tard. Martin, tu as quelque chose à rajouter sur les équipes de Los Angeles? Comment tu vois la saison se passer pour les deux équipes de LA?
Bah écoute, Guillaume a été très, très complet. Effectivement, je voudrais revenir sur le travail du GM des Angels, hein, quoi, qui a fait un très bon travail. Hein. Noah Syndergaard, le pari de Noah Syndergaard qui est en train d'être payant. Et puis j'aimerais aussi souligner la recrue de Aaron Loop, que tu connais très bien, mon cher Bastien, ouais, qui continue de faire des miracles dans le bullpen. Et je pense que c'est un atout indéniable pour enlever un peu de pression à Raisel Iglesias, le closer qui était déjà exceptionnel l'an passé. Là, il a un tout petit peu plus de mal au niveau de l'IRM, mais il est toujours présent. Donc voilà, du très bon travail du côté de Minassian, je crois qu'il s'appelle le GM de tête de nos amis des Angels. Et puis il y a également des petits jeunes qu'on n'attendait pas trop ou qu'on n'attendait plus. Je pense notamment à Taylor Ward, qui fait un exceptionnel début de saison, qui vole presque la vedette à Mike Trout, etc. Il y a Brandon Marsh aussi également qui est là. Petit bémol, mais je pense qu'on y reviendra, sur Joe Adell, la pépite longtemps convoitée et attendue par nos amis d'Anaheim. Et au final, il est toujours décevant une fois de plus, et je ne serais pas surpris de le voir se retrouver dans un trade à la trade deadline justement d'ici le 31 juillet.
Ou repartir peut-être à nouveau en triple A pour se refaire ses armes à nouveau et puis remonter peut-être plus tard. Mais donc voilà, plutôt optimiste pour l'instant très optimiste pour les Dodgers, plutôt optimiste pour les Angels, même si la division va être relativement difficile. Bon, du coup, je reste avec toi, Martin, et je vais te poser pratiquement la même question, mais pour New York. Alors évidemment, il s'est passé des choses, notamment hier, du côté des Mets, mais ma question c'était, bon, les Yankees ou enfin toutes les armes pour dominer la East, hein, clairement, l'American League East. Et est-ce qu'ils peuvent éviter les blessures? Pour l'instant, on a l'impression que Stanton tient la route, que Judge tient la route, que les lanceurs tiennent la route, que personne ne s'est blessé jusque-là. On arrive à la mi-mai et aucun joueur vraiment important n'est blessé. C'est assez surprenant. Donc ça, c'est la question sur les Yankees. Et puis l'autre question, c'est les Mets. Sont-ils enfin capables de tenir une saison sans basculer dans l'absurde et la lose irrationnelle? Là, on a un élément de réponse déjà.
Bah écoute, si tu veux, on va commencer par tes chers Mets, ça te fera plaisir. Bah écoute, tout semblait bien se passer pour les Mets, hein, ça suivait son cours, c'est-à-dire Jacob DeGrom se blesse, mais l'équipe parvient tout de même à se frayer un chemin dans cette division de East de la National League assez relevée. Ça a l'air de bien se passer, puisque à l'heure actuelle, il y a quand même 6 victoires d'avance sur Philadelphie, donc c'est plutôt pas mal pour les Mets. Mais voilà, comme tu l'as dit, hein, ce mercredi 18 mai, voilà que ce bon vieux Max Scherzer se blesse. D'ailleurs, ça a été une image assez marquante, hein, de la MLB. On sait la résilience de Scherzer sur le monticule, et là, de lui-même, il s'est arrêté et il semblait vouloir descendre du monticule. Donc là, son absence vient d'être révélée, ça sera entre 6 et 8 semaines pour lui. Donc c'est de cet après ce que disent les rapports, c'est un moderate to high grade oblique strain. Donc voilà, je te laisse faire la traduction, mais voilà, une blessure oblique, donc c'est quand même assez gênant pour un lanceur. Donc voilà, 6 à 8 semaines. Donc voilà, le duo se retrouve sur l'infirmerie. Mais j'y crois pour les Mets, puisque l'attaque est plutôt cohérente. On voit que ça a bien travaillé cette intersaison, hein. On le sait, du côté des Mets, ça a recruté intelligent, avec pas que des superstars, des joueurs comme Sterling Marte, Marc Cagna, etc. Ça fait le travail. J'ai bien aimé d'ailleurs le drop de Robinson Cano, le fait de le libérer. Voilà, on tourne la page du précédent mandat, j'ai envie de dire, et on se tourne vers l'avenir avec ce groupe plutôt costaud. Donc voilà, j'y crois, il y a pas mal d'avance pour l'instant pour les Mets, et comme on l'avait dit hors antenne, je pense que justement ça va faire du bien à Scherzer justement de faire un petit break, parce qu'on sait que l'année dernière il avait semblé un peu cuit quand il arrivait en post-season pour les Dodgers. Donc là, faire un break et revenir en forme pour le sprint final avec Jacob DeGrom, ça peut faire que du bien aux Mets, et donc les voir monter en puissance sur la mesure pour arriver au pic de forme pour la post-season, je pense que tout a l'air de bien se dérouler. À noter également, il y a la blessure de McGill, donc ça commence à faire un peu beaucoup, mais je pense que ça devrait aller. Et puis surtout, dans le bullpen, il y a Edwin Diaz qui continue de resplendir au poste de closer. Donc voilà, je pense que je continue à y croire pour les Mets, surtout qu'il y a beaucoup de déceptions dans cette NL East. On y reviendra sans doute un peu plus tard dans l'émission, mais voilà, beaucoup de déceptions du côté des Mets. Et pour les Yankees, bah, c'est comme prévu, hein, une belle équipe. On ne pensait pas qu'ils seraient aussi forts. Mais pareil, là, ça a très bien travaillé cette intersaison. Ça ne s'est pas inquiété ou pas, ça n'a pas paniqué quand ils n'ont pas réussi à signer Freddie Freeman, qui était leur objectif prioritaire. Ils sont retournés sur Anthony Rizzo et ils ont bien fait, puisqu'il apporte cette batte du côté gauche très intéressante. Et on sait que le Porsche du côté du champ droit de nos amis des Yankees est plutôt accessible pour les batteurs gauchers. Donc, très bonne pioche. Et puis, bah, évidemment, Stanton et Judge, quand ils ne sont pas blessés, ça fait partie des meilleurs joueurs de la Ligue. Mais c'est comme la question, c'est pareil que pour les Mets, c'est pour combien de temps. Donc voilà, pour l'instant, tout va bien pour les Yankees. Je suis très favorable pour eux. Je souligne très bon début de saison de Nestor Cortes, qui est quand même sans doute la plus grosse surprise de ce début de saison en termes de niveau de jeu. Et puis sinon, bah, c'est tout roule pour les Yankees, quoi.
Donc absolument, tout se passe bien, ce qui nous fait penser qu'il va se passer des trucs pas possibles à New York dans les jours qui viennent. Guillaume, donc les Mets et les Yankees en post-season ?
C'est fort probable. Je pense que Martin a très bien résumé les deux situations. Je reviens juste sur Anthony Rizzo, qui pour moi était le parfait fit pour les Yankees. J'étais même déçu de les voir s'attaquer à Freeman. Pour moi, Anthony Rizzo, c'était vraiment le joueur qui convient le mieux aux Yankees. Donc, le voir ici et le voir performer, ça fait plaisir. Judge et Stanton sont quand même au-dessus du lot pour le moment. Aaron Judge est en train de réaliser une saison assez exceptionnelle. Et du côté des Mets, recrutement très intelligent. Effectivement, Scherzer blessé pour presque 2 mois, absent pour presque 2 mois, mais on a envie de croire que ce n'est pas forcément un problème pour les Mets parce qu'on les voit quand même très solides.
C'est vrai qu'il y a une vraie profondeur.
Effectivement, ouais. Je pense, c'est vrai, il y a une vraie profondeur de dans le bullpen, la rotation et une équipe très bien construite. Donc voilà, ça fait plaisir de les voir à ce niveau-là.
Ouais, bah, je t'assure que ça me fait très plaisir aussi.
On imagine.
Parce que bon, ça fait quand même un petit moment qu'on attend qu'ils reviennent en post-season. Hein. Je dis pas de bêtises, la dernière fois c'était en 2015 quand ils sont jusqu'en World Series. Ils ont fait un wild card game en 2016, pardon, mais ça commence à tarder un peu. Bon, on va quand même passer rapidement sur le reste, parce que bien évidemment la MLB ne se résume pas à New York et à Los Angeles. Hein. On a vu les Astros qui commencent à se refaire leur place, qui viennent de passer en tête de division donc dans la AL West. On voit les Padres et les Brewers qui se replacent vers la tête de peloton dans leur division, mais aussi sur l'ensemble de la Ligue. Les Reds et les Giants qui sont en embuscade. Et puis, bon, comme d'habitude, les divisions centrales qui sont parties pour être un cran en dessous de tout le reste, à part les Brewers. Martin, est-ce qu'il y a des équipes qui t'ont particulièrement séduit ou particulièrement déçu sur ce début de saison ?
Bah écoute, moi je vais en prendre une de chaque, comme ça va répondre à ta question. Une des équipes qui m'a séduite, j'ai envie de dire, c'est Minnesota. Je ne les attendais pas à un tel niveau après leur intersaison, j'ai envie de dire, assez particulière. Où ils ont
et
fait
puis après une dernière saison assez catastrophique.
Bah exactement, ils ont senti que c'est la saison dernière, c'était une saison flop, j'ai envie de dire, et... ils ont procédé à quelques ajustements, notamment le départ de Nelson Cruz pour leur plus grand plaisir, puisqu'ils ont récupéré un magnifique lanceur en la personne de Joe Ryan, qui est une des très belles révélations également de ce début de saison. Ils ont récupéré un ace, ils sont également séparés de José Berrios, mais ils ont récupéré également du prospect et surtout Byron Buxton qui parvient enfin à être en bonne santé. Et là, ça change tout. Hein. On connaît le potentiel de Buxton. Et puis Carlos Correa qui est peut-être un peu en dessous, mais qui apporte justement dans ce vestiaire une présence. Et peut-être cet esprit de gagne qui manquait peut-être à cette franchise ces dernières saisons. Et on sait qu'en post-season, les Twins ont peut-être un sentiment d'infériorité avec tout ce qui leur est arrivé, notamment face aux Yankees. Et peut-être que la présence de Carlos Correa pourra changer ça. Donc plutôt très agréablement surpris par les Twins. En revanche, très déçu par les Braves. Voilà, le hangover des World Series qui frappe une nouvelle fois. Ils sont actuellement quatrième de leur division à plus de 7 victoires et demie des Mets. Donc voilà, un bilan peu négatif de 17 victoires et 21 défaites. Je ne suis pas plus inquiet que ça pour Atlanta. Ronald Acuña est sur le retour, donc il est en train de retrouver sa forme. Je pense que c'est un magnifique, un magnifique joueur. Et puis, il y a toujours une profondeur d'effectif qui est assez impressionnante du côté des Braves. Donc voilà, je pense qu'il faut juste que ça, qu'ils se remettent un peu, avoir envie de gagner. J'ai envie de dire, on sait que c'est difficile après avoir remporté les World Series, qui est le rêve de toute une vie. Et surtout, bah, la division East, qui est quand même très. Même s'ils sont tous en négatif, c'est justement parce qu'ils se tirent tous dans les pattes avec un niveau plus ou moins semblable. On le sait en ce moment. Donc voilà, mais il ne faut pas trop traîner parce que les wildcards vont être très très chers cette saison, même s'il y en a, il y en a un peu plus. Du côté de la NL West, il va y avoir une razzia. Donc il va falloir faire très attention.
Ouais, c'est vrai que les Braves, avec le hangover de World Series et la perte de Freddie Freeman, on sent qu'ils ont un peu de mal à démarrer. Mais bon, ça. Comme tu dis, totalement confiance au Braves pour au moins revenir en position de wildcard vers la fin de saison. Guillaume, même question, est-ce que tu as une équipe qui t'a vraiment séduit, une équipe qui t'a vraiment déçu?
Alors écoute, tu l'as dit en introduction, je gère deux comptes FR, donc les Astros et les Tigers. Donc l'équipe qui m'a le plus séduit, en dehors des Mets dont on a déjà parlé, qui est sans doute l'équipe qui me séduit le plus en tant que joueur de baseball aujourd'hui, c'est les Astros. Parce qu'ils ont repris la tête de la division Ouest dans l'American League. Sur les 12 séries, ils en ont joué 9 contre des équipes en positif. Ils ont joué 25 matchs sur 38 à l'extérieur. Et on sait que ce n'est pas simple de débuter une saison avec beaucoup de road trip à l'extérieur. On pensait que ça allait être beaucoup plus compliqué pour eux avec l'absence de Carlos Correa, qui est très bien remplacé offensivement et défensivement par le rookie Jeremy Peña. Le retour de Justin Verlander sur la butte, je pense que, alors je ne sais pas si ça va durer, parce qu'il a déjà aligné 2 matchs à plus de 100 lancers, mais il est
c'est excellent pour le moment. Ouais.
Exceptionnel. Excellent. Donc voilà, c'est une des meilleures attaques, c'est une des meilleures défenses. Voilà, on parle de fin de cycle et malheureusement, enfin malheureusement en tant que fan chaque année, et finalement elle est repoussée d'année en année, donc le plaisir dure encore. Et l'équipe qui m'a le plus déçu, c'est pour le moment les Tigers, puisqu'ils ont très mal débuté une saison qui était pour eux. Ils attendaient énormément sur cette saison 2022 et pour le moment ils déçoivent. C'est pas que le bilan, c'est surtout le jeu en attaque qui est très pauvre, puisque là on est sur la pire équipe offensive de base volée, alors que c'était la spécialité l'an passé des Tigers.
Bah justement, les Tigers, c'est assez intéressant parce qu'on pensait les voir quand même vraiment débuter leur progression cette saison. On se disait, là, ça construit bien, les prospects sont en train de monter, etc. Est-ce qu'il y a une explication pour ce qui est en train de se passer? Ils ont déjà lâché la saison ou c'est juste que ça ne prend pas vraiment, à ton avis?
Alors, l'an passé, à la pareille époque, le bilan était similaire et ils se sont rapprochés des 81 victoires. On n'est pas à l'abri d'un retour à la normale et d'une équipe qui gagne. Casey Mice, l'ace, est blessé. Matt Manning, un autre top prospect qui a 24 ans, est blessé également. Il n'y a que Tarik Skubal sur le monticule qui est énormissime. Il a une ERA de 2,50, une whip de 1,08. Il a presque 11 strikeouts sur 9 manches. Mais il est seul dans la rotation derrière. Eduardo Rodriguez tarde à s'imposer malgré son contrat énorme signé cet hiver. Le bullpen, lui, tient la route. Mais par contre, en attaque, on en a parlé, c'est catastrophique. 27e équipe en la moyenne au bâton, 28e au BP, 30e en run, 30e en home run, 30e en base volée. C'est compliqué. Parce qu'il n'y a pas eu d'apport offensif cet hiver. Donc, il y a eu Javier Baez qui a un peu de mal, un peu comme Carlos Correa a trouvé ses marques. Il y a l'arrivée de Spencer Torkelson, qui est un des meilleurs prospects du pays, qui, à mon sens, est arrivé trop tôt, un peu comme Kalinic aux Mariners l'an passé, si je me souviens bien. D'ailleurs, ce n'était pas le prospect le plus MLB ready, le plus prêt pour entrer en MLB. C'était plutôt Riley Green du côté des Tigers. Mais il s'est blessé pendant le camp d'entraînement. Et j'ai l'impression que Spencer Torkelson aurait eu besoin de passer peut-être 1 ou 2 mois en triple A pour s'échauffer. Donc voilà, c'est plutôt compliqué pour lui. Mais il ne peut pas porter à lui seul l'attaque des Tigers. Donc il va falloir que AJ Hinch trouve des solutions.
Ouais, clairement, c'est ça. C'est vrai que tu ne peux pas vraiment trop compter sur un rookie qui vient vraiment de débuter sa carrière en MLB pour mener l'attaque des Tigers. Justement, j'allais en parler des rookies parce que Torkelson, c'est peut-être un peu le symbole des Tigers. Top prospect, présent dès l'opening day, grande difficulté avec une moyenne au bâton, je crois, qui est inférieure à 16% maintenant. Mais ce n'est pas le seul. Hein. Tu vois, Christian Pache, qui était un autre candidat déclaré au titre de Rookie of the Year, qui est aux Athletics maintenant, qui est dans les mêmes eaux. On a l'impression que chez les rookies, autant chez les lanceurs, on a du beau matériel pour la course au Rookie of the Year. Donc avec Joe Ryan, dont parlait Martin, avec Hunter Green, Mike Isinger, Danny Jimenez, Connor Overton, qui font tous des très bonnes saisons, pour l'instant très bon début de saison. Autant au bâton, on semble un peu déçu ou pas forcément complètement convaincu par les top prospects. Qu'est-ce que tu en penses, Martin ?
Bah, c'est vrai que on avait une belle génération de super prospects qu'on attendait avec, avec impatience. Ça a commencé avec Wander Franco qui est arrivé du côté des Rays, mais qui lui semble ne faire fi de la pression et qui est déjà le moteur de l'attaque des Rays. Derrière, c'est plus compliqué, effectivement. Bah, pour Spencer Torkelson, je pense que, comme l'a dit Guillaume, je pense qu'il aurait bien fait de faire deux mois en triple A, histoire de partir sur un cycle positif avant d'arriver en MLB. Après, il rentre dans les chaussures de Miguel Cabrera aussi. C'est pas facile quand on voit l'immense garçon qu'est Miggy, surtout qu'il est en train d'exploser tous les records. Hein, au fur et à mesure que la saison avance, il a battu il rentre dans les meilleurs frappeurs de home run. Il a eu son 3000e hit, il me semble. Donc voilà, c'est difficile pour lui. Il y a pas mal de pression. Après, je trouve que défensivement, il fait le travail. Donc, il n'est pas totalement à la rue comme pourraient être certains prospects un peu dépassés par le niveau, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'offensivement, c'est difficile. Après, on sait qu'en ce moment, les lanceurs dominent plus que les batteurs, j'ai envie de dire, quand on voit les lancers à plus de 103 km/h que certains garçons peuvent envoyer. Pour un joueur qui arrive de triple A, ça n'arrive pas souvent de voir de tels types de lancers. Donc, voilà peut-être une des explications. Et puis également, quand tu es un peu moins bien entouré dans la line-up, les lanceurs peuvent accentuer et faire sur les faiblesses du batteur. Donc, ils doivent profiter justement des faiblesses de Spencer Torkelson. Et puis, c'est vrai qu'il y a d'autres rookies qui sont un peu en difficulté. On a dit Joe Adell, par exemple, ou Kellenich, qui a été renvoyé en triple A par les Mariners. Alors que justement, Julio Rodriguez, lui, a quelques soucis justement à la batte. Mais offensivement, il reste efficace puisque c'est le meilleur voleur de base de la MLB et qui a quand même une bonne présence sur base. Donc, il arrive à compenser un peu ses petits problèmes à la batte.
Oui, c'est vrai pour Rodriguez qui est peut-être encore un exemple différent. Après, tu as Bobby Witt qu'on n'a pas encore forcément vu au niveau qu'on attend.
Oui, mais qui reste plutôt correct et est en train de chauffer là, donc plutôt positif pour lui. Ouais. Ouais.
Alors, c'est assez intéressant ce que vous dites tous les deux. Au niveau de, il aurait peut-être fallu les laisser encore un petit peu en triple A. Et du coup, est-ce que vous pensez, parce qu'on sait que souvent, principalement pour des raisons financières et contractuelles, parce qu'on peut comme ça, les franchises peuvent les garder un an de plus. Les meilleurs prospects ne rejoignaient le show que quelques semaines avant le début de la saison. Cette année, on a beaucoup de top prospects qui ont été là dès l'ouverture de la saison en anticipation des nouvelles règles de la MLB hein, qui vont donc annuler cette espèce de loophole qui permettait de récupérer un an supplémentaire. Est-ce que peut-être que commencer à l'opening day sous le feu de tous les projecteurs comme ça, est-ce que ça peut peut-être mis un peu trop de pression sur ces jeunes joueurs ? Guillaume ?
Effectivement, c'est assez récent hein, de voir des prospects débarquer dès l'opening day dans certaines équipes. Par le passé, on les voyait plutôt arriver en juillet-août, lorsque les équipes en reconstruction échangeaient leurs vétérans et laissaient de la place aux prospects. Là, c'est plutôt nouveau. C'est quelque chose d'assez récent. Les Tigers avaient besoin de Spencer Torkelson, hein, clairement, puisque cet hiver, à part il n'y a pas eu de recrue offensive claire du côté de Détroit. Donc, Spencer Torkelson paye un peu aussi cette faiblesse.
Et puis, moi, j'aimerais juste rebondir. Je pense que aussi la grève d'avant-saison a également dû impacter un petit peu cette arrivée massive de top prospects parce qu'il fallait attirer, j'ai envie de dire, la fanbase, que ce soit dans les stades ou sur les retransmissions télévisuelles. Et donc, on a peut-être un peu rush, justement, ces jeunes joueurs comme Julio Rodriguez ou Spencer Torkelson, dont on parlait beaucoup dans les ligues mineures et qui sont peut-être là juste pour des problèmes marketing, peut-être que de niveau. Mais je ne doute pas qu'ils vont finir par s'adapter. Hein. Évidemment, je suis pas inquiet pour Torkelson ou Julio Rodriguez, surtout comme je l'ai dit, Rodriguez qui est plutôt très actif sur les sentiers, donc il arrive à compenser un peu son manque de présence au bâton. Donc voilà, à voir si ça, cette trend, j'ai envie de dire, de joueurs un peu marketing qui sont poussés vers l'avant de ces top prospects continue, ou si c'était juste un épiphénomène de 2022 à cause justement de cette grève qui a un peu rompu encore un peu plus et la relation entre les fans et les clubs de MLB, quoi.
C'est vrai qu'il y a deux façons de voir les choses. On pourrait s'attendre à ce que ça vienne la normale, puisque maintenant, de toute façon, la MLB, les clubs n'auront plus d'intérêt à faire attendre leurs joueurs. Par contre, c'est vrai qu'on peut se dire aussi que les clubs vont peut-être se dire que, oh, regarde, l'année dernière, ils ont tous commencé à l'opening day et ils ont tous eu du mal. On va peut-être attendre encore un peu. Donc, du coup, il y a deux façons de voir les choses, vraiment. Mais bon, comme tu dis, est-ce que c'est le marketing ou la raison sportive qui va gagner? C'est toujours la question, et en général, on sait à peu près aussi tu la réponse au sport américain, mais on aura le temps d'en reparler d'ici l'an prochain. Bon, autre chose à rajouter sur les rookies.
Bah non, écoute, on va pouvoir passer à la suite, j'imagine.
Guillaume ?
C'est bon pour moi.
Ok. Alors, on va passer aux autres joueurs. Alors, on reste une petite carte blanche pour vous deux en deux actes. Bah, d'abord, si on oublie la performance pure, les stats, la vitesse, la puissance, vraiment les trucs qu'il faut vendre dans les journaux, pour se concentrer uniquement sur le ressenti, quels sont à tous les deux vos joueurs coup de cœur de ce début de saison? Donc à toi de commencer, Martin.
Bah écoute, Guillaume a un peu spoil mes réponses de tout à l'heure. Tu le sais, mon amour pour les Astros, et j'imagine que les auditeurs commencent à bien me cerner. Et c'est vrai que le jeune Jérémy Peña est quand même assez impressionnant, hein, quand même, toute proportion gardée et impartialité, évidemment, qui m'oblige dans ce podcast, mais il avait des chaussures très lourdes à remplir, celle de Carlos Correa, qui était premier choix de draft des Astros, le capitaine de route de cette franchise depuis son arrivée en MLB, un peu figure de la Ligue. Et il fait très très bien les choses, à commencer par le défensif, où on voit qu'il n'a quasiment rien perdu entre Correa et Jérémy Peña. Peña qui est d'ailleurs, je crois, deuxième en defensive war, donc assez impressionnant pour un rookie. Et offensivement, il fait le travail, il ne sera jamais au niveau de Carlos Correa, mais il répond présent, il est plutôt clutch. Donc voilà, d'ailleurs, j'aimerais également souligner Jordan Alvarez, que j'ai mis en MVP dans les pronostics TSO. Donc voilà, je continue à poser une petite pièce sur le Cubain, dont je rappelle qu'il a été tradé par les Dodgers contre un lanceur du nom de Fields, donc que tout le monde a oublié. Donc être encore un très bon coup de nos amis des Dodgers. J'en profite, un petit tacle gratuit, ça fait jamais de mal à nos amis de Los Angeles. Et puis au niveau des lanceurs, j'en ai parlé également tout à l'heure, Joe Ryan, impérial, qui était avec la sélection américaine du côté des Jeux Olympiques et qui surfe sur cette magnifique vague, et qui est devenu en l'espace de quelques semaines l'ace de ces Twins. Et il est vraiment très très impressionnant. Je conseille à nos auditeurs d'aller jeter un coup d'œil quand il est sur le monticule, parce qu'il dégage quelque chose d'assez impressionnant.
Jean-Réan, dont le Babip dit quand même que ça ne devrait pas durer comme ça très longtemps, mais c'est vrai que pour l'instant c'est très très fort, donc à suivre. Guillaume, j'imagine que ton coup de cœur niveau joueur, ça va être un certain shortstop qui joue du côté de Minute Park également.
J'aurais pu, j'ai hésité. Effectivement, Jérémy Peña est exceptionnel. Puisque tu nous as dit de mettre de côté les stats, et que Jérémy Peña aujourd'hui est leader dans quasiment toutes les statistiques défensives et offensives des shortstop, j'ai choisi un autre joueur. C'est Ty France des Mariners. Parce que c'est un joueur clutch, parce que c'est un joueur qui fait plaisir à voir jouer. C'est le type de coéquipier qu'on aimerait avoir. Il a toujours le sourire. C'est pas pour son nom de famille, même si ça fait Cocorico et qu'effectivement la franchise des Mariners en profite beaucoup sur les réseaux sociaux, et même les fans des Mariners, hein, dans les travées j'ai oublié son nom, l'ancien
Safcofield.
C'est plus T-Mobile Park maintenant, je crois.
Ah, peut-être.
Si je veux pas dire de bêtises, voilà, effectivement. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt plaisant. C'est un joueur qui est à l'image des Mariners, même si là les Mariners ont un peu calé. Mais je pense qu'on les retrouvera à la bagarre en cours de saison pour le titre de la division. Donc voilà, Ty France est un peu à l'image de cette équipe de Seattle qui fait plaisir à voir sur le terrain. Donc je dirais Ty France.
Ty France, pardon. Et peut-être c'est un lanceur aussi qui te plaît en début de saison ?
Eh ben, du coup, j'en ai un, Justin Verlander, puisqu'on ne s'attendait absolument pas à ce niveau-là. Je vois que la MLB aujourd'hui a sorti une sorte de ranking des lanceurs pour les deux ligues et côté American League. Donc, c'est Justin Verlander pour le Cy Young après 35-40 matchs, donc après un petit quart de saison. Et je crois que c'est amplement mérité vu les statistiques qu'il a. J'espère que ça va continuer, on connaît son âge. Moi, je trouve que deux matchs à plus de 100 lancers, c'est beaucoup. Mais voilà, je pense que Dusty Baker et son staff savent ce qu'ils font. Et Justin Verlander, à son âge, sait aussi ce qu'il fait, à l'image des Nolan Ryan et d'autres hein, par le passé, qui n'avaient pas besoin qu'on vienne leur dire quand sortir du terrain. Donc voilà, à voir.
Verlander qui en plus n'a quand même pas l'habitude de trop se blesser depuis le début de sa carrière, même s'il a eu cette interruption là pendant 2 ans pour son opération. Donc c'est vrai que normalement c'est un peu comme Scherzer et c'est des mecs qui sont pros, qui savent au moment où il y a quelque chose qui tourne plus vraiment très bien, qui savent gérer et essayer et arrêter au bon moment. Donc normalement ça devrait aller. Tu voulais rajouter quelque chose, Martin?
Oui, écoute, non, c'était juste par rapport à Justin Verlander. Je voulais quand même rappeler qu'il a loupé quasiment 2 saisons complètes de MLB et que revenir à un tel niveau, c'est quand même assez impressionnant de sa part. Donc voilà, c'est pour souligner ce retour en forme. Et puis Guillaume en a parlé juste après. Il se rapproche de plus en plus et il ressemble de plus en plus à son idole de toujours, Nolan Ryan, qui était vraiment vraiment un monstre et un monstre de travail et qui restait jusqu'à plus de 40 ans sur le monticule. Et Justin Verlander n'a jamais caché qu'il voulait justement franchir cette barre mythique des 40 ans. Donc voilà, affaire à suivre, j'ai envie de dire, pour Justin Verlander. C'est vrai qu'il y a ce problème de pitch count qui est quand même assez intéressant et qu'il faudra suivre pour tous les lanceurs, hein, pas que pour Justin Verlander, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu cette grève durant l'intersaison qui a raccourci énormément la période de préparation du spring training. Et on sait que c'est plus important et un plus impactant pour les lanceurs, ce manque de préparation. Et on voit qu'il y a quand même pas mal de blessures en ce début de saison, quoi.
Ouais, c'est vrai. Notamment sur des lanceurs stars, hein, donc comme on l'a vu tout à l'heure. Verlander qui fait partie des vrais candidats au Cy Young en ce début de saison. Mais on va passer aux monstres de ces premières semaines et c'est des joueurs qu'on n'entendait pas forcément à ce niveau-là, hein, parce que on a Taylor Walls des Angels qui est au-dessus de toutes les catégories offensives, même juste au-dessus de Trout qui fait pourtant un début de saison énorme. Bon, d'ailleurs, tu as Judge, tu as Ramirez, etc. Mais c'est très, très fort. Manny Machado, qui est en train de jouer au niveau auquel on l'attendait depuis le début de saison. Ça fait longtemps qu'on l'attendait presque plus, d'ailleurs, qu'il revienne sur le niveau avec les Padres, mais qui est en mode MVP depuis le début de saison. Côté lanceur, on a Pablo Lopez des Marlins, qui fait un début de saison assez stratosphérique, même si hier, ce n'était pas terrible. Et alors, Nestor Cortes, qui est peut-être la plus grosse surprise. Autant Pablo Lopez, c'est un rookie, on connaît son... c'est pas un rookie, c'est un sophomore dont on connaît le talent, on l'a vu l'an dernier déjà. Autant Nestor Cortes, on ne l'imaginait pas à ce niveau-là. Alors, substance, pas substance, on va pas spéculer là-dessus, c'est pas genre de la maison. Mais y a-t-il un MVP ou un Cy Young parmi ces 4 noms pas forcément attendus, y compris celui de Machado, hein, dont on sait qu'il a toujours été capable d'évoluer à ce niveau-là, mais on n'y croyait plus?
Bah, c'est vrai que Machado, j'ai envie de dire qu'il a un peu enfilé le costume de super-héros pour cette équipe des Padres. Ce bon vieux Fernando Tatis qui a préféré la motocross durant l'intersaison plutôt que se préparer et donc blessé. Et donc Machado a décidé de prendre en charge l'avenir de ces Padres. Donc il est vraiment assez exceptionnel en ce début de saison. Mais il va avoir une grosse compétition du côté de la National League, hein, puisqu'il y a ce bon vieux Bryce Harper qui est toujours là. Malgré malheureusement sa petite blessure là qui vient d'arriver.
On peut quand même penser que Bryce Harper, maintenant qu'il va être uniquement DH, ça va vraiment le pénaliser pour la course au MVP, parce qu'on voit quand même que les DH en général sont beaucoup moins considérés pour le titre de MVP que les joueurs de champ qui font aussi la foire défensif.
C'est ça, mais je pense que Bryce Harper, on connaît ses capacités. Sur le terrain, il l'a prouvé l'an dernier défensivement, c'est un monstre, hein. Il a un bras du tonnerre, donc je pense que pour l'instant il s'est blessé, donc il va passer DH pour que les Phillies puissent rester en dehors de l'eau, j'ai envie de dire. Mais voilà, il y a une belle compétition entre deux gros monstres du côté de la National League. Pour l'American League, c'est encore un peu plus confus, j'ai envie de dire, pour le titre de MVP. Il y a Rafael Devers qui fait un début de saison assez exceptionnel malgré les performances coussi coussa, j'ai envie de dire, des Red Sox qui sont derniers, ou qui sont avant, ils sont passés avant-derniers là avec la victoire contre les Astros dans la nuit de mercredi à jeudi. Mais voilà, c'est quand même pas glorieux pour les Red Sox. Pourtant, il y a Rafael Devers qui performe très très bien. Je l'ai dit, hein, il y a les deux Astros, Kyle Tucker et Jordan Alvarez, qui sont également bien placés. Donc voilà, et je pense que toi aussi, tu dois avoir quelques favoris pour le titre de MVP, Bastien.
En Amérique, il y en a tellement, de toute façon, parce qu'il y a ce dont tu as parlé. Tu as Mike Trout qui fait une saison de Mike Trout, Aaron Judge qui fait une saison quand même assez exceptionnelle.
Oui, voilà, je te laisse parler des perfides Yankees.
Dans Aaron Judge, il fait vraiment la saison qu'on attendait d'Aaron Judge. Il est absolument partout, il frappe les home runs, il frappe à la moyenne, il fait rentrer des points.
Bien choisi son année, hein, puisqu'il est en contrat tiers à Aaron Judge, et puis c'est vrai qu'il est revenu à son niveau de 2017, où c'est vrai qu'il y a toujours cette petite conversation, négociation, j'ai envie de dire, du côté de nos fans du Bronx, qui pensent que Altuve a volé le titre de MVP à Aaron Judge. Mais c'est vrai que ça fait, j'ai envie de dire, même pour un spectateur et un téléspectateur lambda, c'est vrai que voir Aaron Judge enfin sur ses deux jambes et en bonne santé, ça change tout, quoi.
Absolument, c'est vrai que c'est beau à voir, quoi. Et puis, tu en as un qui est toujours, toujours, toujours dans le top 5, qui ne va jamais gagner le MVP parce qu'il reste à Cleveland, c'est José Ramirez, mais qui, comme toujours,
il est
juste bon. Il est en tête au niveau des RBA de toute la ligue. Il fait rentrer les points, il court sur les sentiers, il est plaisant, il sourit toujours, il est génial. Mais le problème, c'est que ça fait déjà 5 ans qu'il aurait dû se barrer avec Cleveland.
Et il a prolongé d'ailleurs.
Il a prolongé au lieu de partir. Donc après, c'est lui qui demande. Hein.
Il a mis la maman à l'abri, comme on dit. Il montre une certaine fidélité qui est de plus en plus rare du côté de la MLB. Il a d'ailleurs dit dans une interview qu'il avait accepté moins d'argent avec les Guardians que d'autres franchises lui proposaient. Donc à voir, parce qu'on le sait, hein, les Guardians, ils peuvent à tout moment le trader. Ramirez, il aura beau aimer la franchise, s'il est tradé, il sera tradé. Hein, donc affaire à suivre. J'imagine très peu les Guardians quand même trader Ramirez, qui reste leur dernier gros star. Mais on pensait pareil pour Lindor, et au final, il a quand même été envoyé du côté des Mets.
Après, voilà, et puis après, on sait qu'avec le contrat qu'il vient de signer, les Cleveland pourraient récupérer vraiment de gros, gros, gros prospects et continuer à construire quelque chose qui devrait commencer à se mettre en place d'ici 2-3 ans.
Oui, voilà, on en reparle je pense qu'on en reparle dans 2-3 ans pour voir si Ramirez est toujours du côté des Guardians.
C'est ça. Et sinon, pour les autres candidats en National League, pour moi, il y a Goldschmidt et Arenado de Saint-Louis qui sont de très très bons candidats, toujours très forts, toujours solides.
Goldschmidt qui est en feu d'ailleurs en ce moment. Donc,
Goldschmidt qui est absolument en feu, qui est en train de faire beaucoup de mal aux Mets d'ailleurs sur la série en cours. Arenado qui a démarré la saison sur chapeau de roue, qui s'est calmé un peu. Et puis tu as mon petit favori, Josh Chisholm, le Dennis Rodman du baseball, qui lui aussi commence à faire, en train de sortir une saison au niveau où on l'attendait. Et qui est vraiment en train de monter en puissance. Il a un petit côté Buxton, mais côté National League, il est fou, il fait le show, il vole des bases, etc. Donc c'est vraiment le genre de joueur qui peut aussi apporter quelque chose.
Après, malheureusement, il joue chez les Marlins, donc il risque d'avoir peut-être un peu de mal à être sur le devant de la scène pour le moment. En tout cas, mais c'est bien de voir que du côté de Miami, il y a enfin des joueurs qui arrivent à sortir du lot, parce que des trades de JT Realmuto, Yelich, Stanton, il n'y en a pas grand monde qui est parvenu au niveau MLB, donc c'était assez décevant. Et là, Josh Chisholm, c'est quand même, il faut le rappeler, un trade 1 contre 1 entre Zach Gallen et Chisholm. Les deux sont très très bons, hein, que ce soit Gallen ou Chisholm, mais c'est vrai que voir enfin un bon batteur pour les Marlins, c'est vraiment ce qui leur manque, hein, parce qu'on le sait, leur rotation est même assez exceptionnelle avec, on l'a dit, Pablo Lopez, Sandy Alcantara, Trevor Rogers, j'en oublie sans doute, mais c'est vrai qu'au niveau du bâton, c'est quand même assez compliqué, et de pouvoir construire justement cette attaque autour de Josh Chisholm, c'est très très bon pour l'avenir. Et Kim Ng a du bon matos, j'ai envie de dire, si je peux me permettre, pour construire une très belle équipe à l'avenir. Et c'est vrai que Chisholm a tout d'un joueur que la MLB raffole et avoir envie de mettre en avant, quoi.
Exactement, un bon vrai joueur star, un bon vrai joueur tête d'affiche, donc, et un joueur vraiment à suivre pour les 10 années à venir, sans aucune question. Alors, on a perdu Guillaume qui nous a quitté à cause d'un méchant orage dans sa région. Donc,
On va finir sur les Cy Young peut-être, avant histoire qu'on soit totalement complet pour nos auditeurs. On sait qu'on a été très peu présents au niveau des podcasts ces dernières semaines. On s'en excuse évidemment auprès de nos amis auditeurs de TSO. Mais vous pouvez nous retrouver chaque semaine hein, chez Hype avec une grande partie de l'équipe The Strikeout. Mais c'est vrai qu'on va essayer de faire un peu plus d'efforts et vous sortir un peu plus de podcasts un peu plus régulièrement. Pour revenir sur les Cy Young, hein, on l'a dit, je pense que Justin Verlander est en tête de l'American League. Nestor Cortes est un bon concurrent, j'ai envie de dire, mais voilà, j'ai encore quelques doutes sur sa régularité sur le futur. Et puis en National League, bah, il y a toujours les monstres, hein, Corbin Burnes. Et moi, je mets une petite pièce sur Walker Buehler, que j'adore énormément et que je trouve qui est vraiment le nouvel ace de cette franchise des Dodgers. Et c'est un de mes lanceurs favoris.
Ouais, en National League aussi, bah, on parlait des lanceurs de Miami, hein, donc t'as Lopez et Alcantara qui font un début de saison encore très 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 bon, hein, comme d'habitude. Tu as quelques lanceurs chez les Mets, bon, il en reste un qui est en forme, Bassitt, qui fait un très bon début de saison dans l'ombre de Grom
et qui va avoir un rôle encore plus accru là, avec les blessures des trois de devant, hein, donc il a vraiment une grosse pression là.
C'est ça. Bon, on peut dire quand même que c'était lui le troisième, parce que McGill, ça reste un jeune qui a surperformé en début de saison. Donc maintenant, c'est vraiment lui l'as de la rotation, attendant que les autres viennent. Ça va être à lui de prouver qu'il est à ce niveau-là. Et à suivre José Quintana, qui a toujours été très bon dans le potentiel et qui est en train de faire une très bonne saison en secret chez les Pirates. Lui aussi, hein, c'est un peu comme Machado, peut-être encore plus. On s'y attendait vraiment plus du tout à ce qu'il atteigne ce niveau-là. Est-ce qu'il est capable de tenir ça sur la durée? Moi, je ne pense pas, mais on ne sait jamais, parce qu'il a fait de belles saisons dans le passé. Et puis sinon, tu parlais de Walker Buehler, tu as Max Fried qui fait un début de saison correct et qui devrait être dans la discussion vers la fin. Nicolas des Cardinals, hein, qui fait un très bon début de saison aussi. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de favoris qui se dégagent, mais il y a pas mal de monde qui...
C'est ça, il y a moins de favoris que pour les MVP, où il y a vraiment des joueurs qui se détachent vraiment du lot pour le moment. Au niveau des lanceurs, c'est un peu plus, j'ai envie de dire, serré, si on peut se permettre. Et je profite que tu parles de José Quintana pour dire que les Pirates sont moins dégueux que prévu. Alors, c'est les Reds de Cincinnati, hein, qui sont vraiment très, très... j'ai envie de dire qu'on a un niveau triple A en ce début de saison. C'est quand même, y a quand même eu un événement assez incroyable qui s'est passé avec ses amis des Reds. C'est qu'ils ont réussi à avoir un no-hitter de leur lanceur et à quand même à réussir à perdre le match. Donc je pense que c'est un magnifique synonyme, une magnifique façon de résumer la saison de nos amis des Reds, dont on embrasse d'ailleurs les CM France. Ça ne doit pas être facile pour eux.
Pas facile, facile. Pourtant, pareil, il y a encore du potentiel, notamment au niveau des lanceurs. Bon, ils ont le petit Hunter Green là, qui est assez exceptionnel. Mais bon, les Reds, on sait que ça fait longtemps que c'était plus ou moins la reconstruction. Maintenant, c'est vraiment reconstruction. Ils vont partir de zéro. Ils vont garder Votto dans un coin, mais Votto, il n'a plus envie. Il est occupé sur TikTok. Il n'a même plus envie de jouer. Il veut partir, tout le monde le sait. Donc, c'est vrai qu'il n'y a plus grand-chose. Donc, ça va tranquillement, tranquillement dormir quelques années. Et puis, on en reparlera d'ici 2025, je pense. Et puis au niveau des lanceurs d'American League, je vais juste rajouter quand même Alek Manoah, hein, qui fait un début de saison très 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 très, très solide.
Pour un sophomore, c'est impressionnant, hein, parce qu'on le sait, hein, le sophomore wall, c'est pas que en NBA ou dans les autres sports américains, c'est également en MLB où bah, justement les batteurs commencent à s'adapter au stuff des rookies qui peuvent être surprenants de première saison. Et là, Alek Manoah est en train de devenir, j'ai envie de dire, peut-être pas l'ace, parce que Kevin Gausman, qu'il ne faudra pas oublier non plus dans la discussion, ouais, des Cy Young, est quand même assez, assez exceptionnel. Mais Alek Manoah est devenu peut-être le deuxième lanceur de cette rotation, alors qu'il y a quand même des noms comme Ryu ou José Berrios dans cette rotation des Canadiens.
Berrios, qui lui, par contre, a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal et continue à confirmer qu'il n'est peut-être pas, en fait, c'est peut-être un de ces joueurs qui est capable du meilleur sur une période, mais qui n'est pas capable de tenir ce niveau-là sur une saison. À Toronto, ça est difficile. Avant ça, aux Twins, il y a des très bonnes périodes et puis des périodes plus difficiles. Peut-être que Berrios, finalement, on surestime un peu trop depuis un moment.
Ouais, on va finir le podcast sur lui, je pense. Mais c'est vrai que José Berrios, je pense que finalement, on se rend compte que ce n'est finalement pas un ace comme on pouvait l'espérer. Du côté des Twins, il était un peu moins dans la lumière, donc il pouvait faire toujours ses belles saisons dans l'ombre. Là, du côté de Toronto, il est un peu plus sur le devant de la scène avec cette franchise qui est en train de revenir au top du top. Et on se rend compte que bah, c'est finalement pas un ace, c'est peut-être un deuxième ou troisième de rotation. Et je pense qu'il serait parfaitement à sa place en tant que troisième de rotation des Blue Jays, quoi.
D'ailleurs, avec Manoa et Gausman, c'est ce qui va se passer assez naturellement. Et pour, on peut s'attendre à ce qu'ils fassent une bonne partie de saison si les Blue Jays se reprennent un peu, parce que c'est un peu difficile pour le moment. Mais donc, à suivre. Donc c'est, mais c'est vrai, il y a peut-être un peu moins de gros candidats. Vraiment, pour moi, il y en a trois en American League, Cortés, Verlander, Manoa pour le moment. Par rapport à la National League, où il y a vraiment mais une espèce de mêlée. Il y a aucun moyen de dire qui peut prendre le trophée à la fin, quoi. Sur ce, je pense que c'est ainsi qu'on va boucler ce premier podcast de saison régulière. Hein. Merci. On espère que vous a plu. Et puis, on vous promet de passer beaucoup plus souvent par le studio d'enregistrement dans les mois qui viennent. Et si vous ne voulez rater aucun de nos podcasts, que ce soit notre série En toute franchise ou bien nos émissions d'actualité, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, The Strikeout, mais également à notre chaîne Spotify. On vous remercie, les auditeurs, pour votre fidélité. Merci, Martin, pour ton retour de l'autre côté du micro. Et mais merci Guillaume hein, qu'on a perdu, mais toujours un plaisir de t'accueillir dans cette émission et un bon week-end de baseball à tous. Bartolo has done it. The impossible has happened.